Cube Radio.
La zone payante. Bienvenue dans votre balado de la zone payante. Mathieu Boivin à l'animation avec les coéquipiers habituels. Stéphane Cadorette en forme ce vendredi matin.
On attaque ce show-là, yes.
Good. Et je m'en reviens aussi du côté de Jean Carrier. Es-tu born ready, toi?
Je suis en feu.
Ouf! Attention. Et nous aussi, on va être en feu toute l'émission, chers amateurs de football. Et on y va avec un spécial transaction. La période, la fin de la période des transactions approche dans la NFL. On va rapidement toucher aux transactions qui ont été effectuées. Un petit peu plus loin, on va aller s'amuser avec les rumeurs. Je m'en retourne du côté de Steph. La première transaction dont on va parler, l'échange du receveur Sanu qui s'en va du côté des Pats. Moi, je trouve que c'est comme une super bonne transaction pour les deux équipes. Puis je trouve que Sanu, il fit, excusez-moi le mauvais terme, dans cette équipe-là, peut faire un peu de tout, un gros bonhomme. Steph, bonne transaction pour les Pats?
Ben, moi, j'allais utiliser exactement ce que tu as dit. C'est un win-win, donc c'est gagnant-gagnant pour les deux, honnêtement. Parce que les Pats, sans parler de faiblesse au poste de receveur...
On a déjà eu des années plus glorieuses.
Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, on le voit en ce moment, Tom Brady joue avec notamment deux receveurs recrues, qui sont des recrues non repêchées à part de ça. Donc, tu sais, il y a une chimie qui est à construire. Mais t'as pas une saison où tu peux te permettre de construire une chimie. T'sais, c'est une saison où les Patriots peuvent clairement aller loin. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. En allant chercher Sanu, tu vas chercher un gros gabarit, peut être très efficace dans la zone des buts. Il a joué au-delà de 76% de ses jeux à l'intérieur avec les Falcons. Ça veut dire qu'on devrait l'utiliser surtout comme ailier serré, mais Sanu peut se promener un peu partout.
Des jeux truqués, c'est un gars qui peut t'apporter beaucoup de choses.
C'est ce qui est bien, c'est sa versatilité sur le terrain. On peut l'utiliser à plusieurs sauces. Donc, pour ça, moi, je trouve que c'est bien pour les Patriots. Écoute, il y a 30 ans, mais l'année passée, il a connu sa saison la plus productive. On parle de 838 verges. Donc, il reste, je pense, du jus dans le réservoir. Il y en a qui vont dire les Patriots sont payés cher pour un receveur, un choix de deux.
Je suis quasiment un trois, là, eux autres. Là. Dépendamment de la position où ils vont
exactement,
finir.
C'est là où je m'en allais. Là. On sait que ça va être un choix de très tard en deuxième ronde. Puis, écoute, faut pas oublier une chose, les Pats ont perdu les services de Josh Gordon. Une autre affaire qui a l'air louche un peu, là, on va le laisser aller sur au ballottage là, la semaine prochaine. Donc, fallait fourbir les armes, fallait aller chercher quelqu'un. Je pense que Sanu, c'est une bonne option. Puis quand je dis gagnant pour les Falcons, écoute, tu vas chercher un choix de deuxième ronde, même si c'est éloigné.
Oh, c'est quand même intéressant. Là.
Un choix de deux pour un gars qui était devenu clairement ton troisième receveur derrière Julio Jones puis Calvin Ridley. Donc, honnêtement, ça fait pas très mal de s'en départir. Je pense que pour les deux équipes, là, on peut parler d'une excellente transaction.
Je m'en vais du côté de John Lacy. Est-ce que tu as la même vision au niveau de cette transaction-là?
Oui, malheureusement, j'aime la transaction pour les Patriots. Je pense qu'ils sont nettement meilleurs présentement qu'ils l'étaient avant la transaction. Stéphane l'a mentionné, dans le cas de Mohamed Sanu, c'est un gros receveur, mais des gros receveurs dans la NFL qui jouent à l'intérieur, il y en a pas beaucoup. C'était les gros receveurs, les possession receivers
sont à l'extérieur
habituellement. Donc, ça amène une polyvalence que tu peux l'utiliser un peu partout, tu peux l'envoyer. Il a des bonnes mains, c'est un gars qui est fiable. Il fera pas de problème dans le vestiaire. C'est un gars qui est très professionnel, une belle éthique de travail. Moi, je pense qu'ils sont meilleurs là avec Sanu qu'avec le peut-être plus talentueux Josh Gordon, qui ne produisait pas tant que ça avec les Pats. Puis j'ai l'impression, dans le cas aussi de Josh Gordon, moi, je pense qu'il a perdu une vitesse qu'il avait quand il était avec les Browns. Il a plus nécessairement la même vitesse. Il est un petit peu moins dangereux sur les longues balles. Donc, moi, encore une fois, les Pats frappent dans le mille. Je pense vraiment, vraiment que Sanu va les aider.
On continue dans les transactions. Sanders, le receveur Emmanuel Sanders, qui est rendu avec les 49ers de San Francisco. Aussi, je pense que c'est une bonne transaction. Une équipe qui avait besoin de... On court beaucoup à San Francisco. on avait besoin d'aide à cette position-là.
On court beaucoup, mais va falloir passer. T'sais, on louange souvent les équipes qui ont l'approche à l'ancienne, c'est-à-dire défensive, jeu au sol. C'est une belle formule, mais dans la NFL aujourd'hui, il faut que tu aies un jeu.
Il y a des matchs où c'est de valeur, va falloir que tu passes.
Ouais. Puis en ce moment, les Niners, s'il y a un défaut, c'est un peu le jeu aérien. T'sais, je veux dire, l'équipe fonctionne à fond de train. Tu peux pas critiquer quoi que ce soit, mais le jeu aérien laisse à désirer un petit peu. Bon, il y a beaucoup de jeunes receveurs là.
Oui.
Sanders qui amène une présence de vétéran. Il a gagné à Denver. T'sais, c'est un joueur qui peut amener une belle culture dans le vestiaire. Puis ce que j'aime le plus de cet échange-là, c'est qu'il est très familier avec le système de Kyle Shanahan. Écoute, le coordonnateur à Denver, qui est Rich Scangarello, lui, il était coach des corps arrière sous Shanahan à San Francisco en 2017 et 2018. Il était assistant offensif aussi sous Shanahan à Atlanta en 2015, je crois. Donc, il y a une familiarité avec le système de Shanahan qui s'est installé à Denver. Donc, Sanders arrive de Denver à Atlanta. Il n'y a pas une énorme adaptation là, qui va devoir se faire. Je pense que ça va être très aisé dans son cas. Ça devrait être assez facile là, d'arriver sur le terrain rapidement puis de contribuer. Donc, j'ai hâte de voir ça là, dès dimanche. C'est ce que j'aime le plus de cet échange-là, outre le fait qu'ils n'ont pas payé nécessairement cher. Là, on parle, ils payent un 3 puis un 4, mais ils reçoivent un 5 aussi dans l'échange. Donc, c'est pas tellement cher. La seule chose, c'est que Sanders, le contrat vient à échéance à la fin de la saison.
C'est
donc,
une location, tout simplement.
C'est une location, mais il y a possibilité de s'entendre avec lui à long terme si... il fonctionne très bien dans le système.
Et n'oublions pas, c'est un joueur partout où il a passé à Pittsburgh avec les Broncos. Il a toujours produit. Un gars travaillant.
Ouais.
Donc, honnêtement, probablement une bonne transaction. John Essay, la vision du John Essay sur cet échange?
Ben, des bonnes mains aussi. C'est un gars qui n'échappe pas beaucoup de ballons. Quand tu y lances dans sa direction, quand il est ciblé, honnêtement,
il appogne.
Ouais, exact. C'est un gars qui va faire les attraper. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il. C'est un receveur qui est capable d'attraper le ballon dans le trafic. Et ça, c'est une grande qualité dans la NFL. Lui, les tracés à l'intérieur, les in à 10, les curls, c'est un gars qui a aucun problème à aller jouer là, dans les zones.
Il a pas peur.
Entre les maraudeurs puis les secondaires. Fait que ça, c'est une bonne acquisition pour ça. Puis quand tu regardes un peu les receveurs qu'il y avait les Niners, il n'y avait pas un gars comme ça qui était capable d'aller chercher des balles dans le trafic. Beaucoup de petits receveurs rapides, des gars qui peuvent étirer le terrain, mais des gars qui peuvent comme ça aller faire des gros catchs. Ben, je trouvais pas qu'il y en avait tant. Dans le cas des Niners aussi, je suis d'accord avec Stéphane, à un moment donné, on va être obligé de lancer. Ils n'ont pas été capables ils n'ont pas beaucoup lancé non plus parce qu'ils sont toujours en avance dans les matchs.
Run the ball, dans exactement. On court.
Ils utilisent leur très bonne attaque terrestre, non, c'est correct.
Un jour ou l'autre, ça ne sera pas le cas.
Mais exactement. Dans la NFL, sur 16 matchs, c'est impossible qu'à un moment donné, ils ne tirent pas de l'arrière. Ça va venir, puis à un moment donné, ben, ça va leur prendre des outils pour le faire. Moi, je pense encore une fois que l'équipe qui va être les Niners se sont améliorés, tout simplement.
On continue dans les transactions. Une qui s'est déroulée jeudi, le joueur défensif Bennett qui s'en va du côté des Cowboys. On a-tu sorti un caractère du vestiaire du côté de Foxborough? Là, il y a un gars qu'on était tanné de voir, puis va-t'en, là, on s'est essayé.
Ben, c'est que Michael Bennett, un ailier défensif, ça fait une couple de fois qu'il se faisait aller à la trappe, là, qu'il n'était pas content de son utilisation. La dernière chose que tu peux te permettre de dire à New England, c'est que je ne suis pas content de mon utilisation. Je ne fit pas dans le système.
Ah, t'es pas content, toi? Ben, va-t'en.
Je pense pas qu'on va essayer, s'il te plaît, Michael. On va s'asseoir, on va négocier ensemble, on va voir ce qu'on peut faire. Non, là, ça ne marchera pas comme ça. Ça va être merci, bonsoir. Septième choix, oui, ça nous va très bien.
Oui, on veut plus de problème pour un septième. Merci.
Cela étant dit, pour les Cowboys, écoute, tu donnes un septième choix qui peut devenir un 6.
Un 6.
C'est pas un gros coup. Michael Bennett, écoute, jusqu'à l'an dernier, en tout cas, on l'a très peu vu cette année.
Non, en effet, plus discret.
Il a été très peu utilisé à la Nouvelle-Angleterre, mais jusqu'à l'an dernier, à Philadelphie, c'était encore un joueur capable d'avoir un impact sur les matchs. Les coordonnateurs défensifs aiment les joueurs de ligne comme ça, qui peuvent être utilisés à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est le cas avec Michael Bennett. C'est évident que les meilleurs jours sont derrière lui. Mais dans une rotation, là, puis je parle pas d'une rotation comme avec les Patriots où on le voyait très peu, là, mais une rotation où tu le vois sur, je sais pas, 40 à 50 % des jeux.
Il va t'aider.
Je pense qu'il peut avoir encore son utilité. Donc, c'est un échange que je vois, moi, comme sans parler d'une bombe. Là, je vois ça comme un move intéressant du côté des Cowboys. Puis pour les Patriots, tu n'avais plus besoin de lui, tu tasses un problème dans le vestiaire. Je pense que c'est encore une fois gagnant-gagnant.
Gagnant-gagnant. Johnny, gagnant-gagnant? Je pense que oui.
Oui, ben oui. Écoute, les Pats, c'est comme j'ai mentionné, il y avait autant besoin de Michael Bennett que j'ai besoin du froid en hiver. Là. C'est aussi simple que ça.
Donc on comprend ce que tu veux dire. Là.
Les écoute, quand tu regardes les alliés défensifs des Pats, les Kyle Van Noy, les ils en ont tout plein, Ninkovic. Ils ont tout plein de gars comme ça qui peuvent faire le boulot. Puis la défensive des Pats, présentement, elle est en feu, en ultra-feu. Puis je comprends qu'il n'y a pas eu nécessairement beaucoup d'opposition, mais faut à un moment donné regarder ce qui est évident.
On ne donne pas grand-chose.
Ils ont une excellente défensive, ils ne donnent rien au sol, ils mettent de la pression sur le carrière, puis la tertiaire fait vraiment le boulot. Moi, je vois ça comme... Après ça, j'ai parlé de Ninkovic. Je me suis trompé avec Chase Winovich. Je voulais parler.
Ah oui.
Ninkovic,
on n'a pas réalisé personne. On a figé. C'est
ouais.
Bon, quoi, bonne précision.
J'ai eu
tu t'es auto-précisé. C'est bon, ça, mon journée?
Je trouve qu'ils se ressemblent, c'est pour ça, un petit peu, dans leur style de jeu. Donc, écoute, moi, je vois ça comme une bonne acquisition pour les Cowboys. Il va les aider. Comme tu l'as mentionné, Stéphane, ça peut plus être un gars qui joue 80% des répétitions.
Il va appuyer, puis en fin de match, il peut arriver puis te faire un gros sac, un gros jeu. Là.
En situation de passe évidente, il est encore très bon.
On continue. Tu voulais nous parler d'un échange du côté des Raiders?
Ouais, ben il y a le demi-coin, Garyon Conley, qui s'en va du côté de Houston. Les seuls éléments intéressants par rapport à cet échange-là, parce que c'est pas un demi-coin qui a réussi beaucoup, malgré le fait que c'était un choix de première ronde. Il a été très décevant à Oakland, à part une fin de saison intéressante l'an passé, cette année. Regardez le match contre les Packers la semaine passée, là, il s'est fait manger tout rond. C'est lui, Garyon Conley. Donc, ce qui est intéressant à mentionner, c'est que les Texans ont donné un troisième choix pour l'obtenir. Pourquoi c'est intéressant? C'est que l'échange Jadeveon Clowney du début de l'année est complet. Autrement dit, les Texans avaient obtenu pour Clowney des Seahawks un troisième choix. Ils avaient obtenu le secondaire Jacob Martin puis le joueur de ligne défensive Barkevius Mingo. Donc, pour Clowney, finalement, l'échange, c'est Jacob Martin, Barkevius Mingo et Garyon Conley. On n'est pas sûr. Écoute,
non.
Je pense que Clowney est un joueur là, clairement plus d'impact que ces trois gars-là réunis. Si tu me dis de faire l'échange aujourd'hui, je le fais pas. Je comprends que les Texans étaient menottés parce que Clowney ne voulait pas se rapporter à l'équipe. Il y avait la situation contractuelle un peu compliquée. C'est un move des Texans. Bon, un petit peu paniqué. Il y a des blessures dans la tertiaire. Fallait bouger. Mais je pense pas qu'on a été chercher un homme qui va redresser la situation nécessairement.
Parce que c'est très poreux du côté de la tertiaire des Texans.
Intéressant parce que Conley et les Texans jouent contre les Raiders dimanche. Donc, écoute, il n'aura pas mis de temps à savourer son match revanche, comme on dit.
Johnny, as-tu d'autres... veux-tu parler de cette transaction-là ou d'autres...
Je vais en parler d'une autre rapidement. Écoute, parce que Stéphane a fait un très bon travail.
Une analyse totale.
Moi, je vais parler de Quandre Diggs, le maraudeur des Lions de Détroit, qui est passé aux Seahawks de Seattle pour un choix de cinquième ronde. Honnêtement, je la comprends pas, celle-là. Très étrange. Est-ce que ça va mener peut-être à une autre transaction? J'en ai aucune idée. Mais écoute, ça me fait poser des questions sur Diggs. Y avait-tu des problèmes dans le vestiaire qu'on n'était pas au courant? C'est un très bon maraudeur, Quandre Diggs. Moi, c'est un gars que j'aime beaucoup.
Les Lions ont quand même une bonne équipe. Là.
Et ça n'a pas fait l'unanimité dans le vestiaire. Darius Slay, entre autres, a mentionné qu'il était très, très déçu de la transaction. Donc, je l'ai pas compris. Puis les Seahawks s'améliorent. Écoute, tu rajoutes Clowney, Diggs, qui te coûte à peu près rien. Les Seahawks, visiblement... Le directeur gérant fait son boulot, messieurs.
T'es en train de nous dire qu'il sera pas au bord.
Non, lui...
Lui, on l'enverra pas au bord. Il y a bien du monde qu'on va envoyer au bord, là, mais pas lui, je pense. Alors, on va prendre une petite pause audio et là, on s'en va parler de rumeurs. On va s'amuser. On est de retour. Parlons rumeurs. Je me retourne du côté de Stéphane Cadaret. On va commencer. Il y a beaucoup de rumeurs du côté des receveurs de passes. Y a-t-il un joueur en particulier que tu voudrais qu'on commence à jaser de?
Ben, écoute, je pense que le candidat le plus logique qui devrait quitter les cieux ombragés de Cincinnati, c'est AJ Green.
C'est clair.
Tu sais, tu regardes ça, c'est un vétéran qui a été productif tout au long de sa carrière, même si il n'a pas toujours eu des corps arrière extraordinaires. Il est blessé depuis le début de la saison. Quoique là, on se demande, là, je suis plus sûr qu'il est blessé. Je pense qu'on le
on le manège pour une transaction éventuelle.
Je pense qu'on en est rendu là, là, parce que ça fait quand même quelques semaines qu'on parle d'un retour au jeu qui arrive finalement jamais. Les Bengals continuent de dire qu'ils échangeront pas AJ Green. Puis c'est pas un club traditionnellement qui est fort sur les échanges. C'est pas là, dans leur philosophie, disons-le comme ça.
Mais il y a un marché pour ce gars-là, c'est peut-être le temps d'en profiter. Là.
C'est clair qu'il y a un marché. Il y a beaucoup d'équipes qui pensent qu'il n'est pas encore fini, qu'il peut encore apporter de précieux services. Donc, moi, je pense que c'est le gros nom chez les receveurs à surveiller. Sinon, dans les derniers jours, on semble dire que les Jets seraient intéressés à envoyer Robbie Anderson sous d'autres cieux. On l'a pas
le
vu beaucoup
vitesse,
cette année.
Là, ouais, mais pauvre lui, il n'y a pas souvent les pivots pour l'aider. Là.
Avec la situation des corps, avec les Jets, Sam Darnold qui a été hors de combat pour un bout de temps, c'était pas évident d'y envoyer le ballon.
Quand il est revenu, il a vu des fantômes.
On pourra en reparler. Mais Robbie Anderson pourrait devenir un candidat intéressant. Là. Je pense honnêtement que le nom à surveiller pour moi chez les receveurs, c'est AJ Green. Faut que ce gars-là bouge. Si t'es les Bengals, tu vas chercher une valeur pour, parce que c'est clair que ce club-là va rien gagner cette année, puis probablement pas l'année prochaine non plus. Écoute, à quoi bon le garder sur ton banc ou sur le jeu, mais même si, qu'est-ce qui va t'amener de plus cette saison-là?
Strictement rien.
C'est pas lui qui va changer la donne puis qui va t'amener en série, c'est trop mal parti, donc moi je donnerais le feu vert pour l'envoyer si tu peux avoir une valeur intéressante en retour.
AJ Green, Johnny, quelle équipe... Je te demande ça de même. Là, t'es un DG de la Ligue. Là. Quel DG devrait, ou avec un S, s'intéresser à AJ Green?
Ben, c'est aussi le prix à payer aussi qu'il faut regarder dans le cas d'AJ Green. Je pense que les Bengals ne le laisseront pas partir pour une bouchée de pain.
Non, ça, c'est sûr.
Mais écoute, ceux que moi, j'ai peut-être regardé cibler un petit peu, je pense que les Colts d'Indianapolis pourraient être intéressés. Ils n'ont pas nécessairement un receveur de 2 minutes, T.Y. Hilton à l'intérieur, mais rajoute A.J. Green dans cette attaque-là, avec une ligne à l'attaque, puis Brissett qui fait vraiment du bon
Brissett,
boulot.
Si
le prix est intéressant, moi, je pense que les Colts pourraient être vraiment intéressés à acquérir ses services. Tu regardes, fais juste imaginer si les Saints ramasseraient AJ Green.
Oh, ça, j'aime ça.
Et... Parce que là, t'as Michael Thomas, mais Michael Thomas, il est, tu sais,
il est comme un peu tout seul.
Il est un peu tout seul dans l'attaque aérienne des Saints. Fait que, écoute, tu rajoutes AJ Green, là, t'es en business. Puis c'est sûr que ça serait un geste, je pense, où ce que t'es all-in, hein, comme on dit au poker, du côté des Saints, c'est cette année ou rien, mais...
En plus, le miracle se poursuit avec Teddy Bridgewater.
Exact.
On accumule les victoires pendant que Breeze ne joue pas.
Mais Breeze va revenir un jour. Imagine si Breeze revient, non seulement ton club a pas perdu, mais tu reviens avec un joueur dominant à la position de receveur.
Un receveur dominant de plus,
avec
merci.
La défensive qui est en feu. En tout cas, moi, c'est deux endroits, je pense, qui... Si j'étais directeur gérant, je m'informerais au moins du prix à payer là, pour aller chercher AJ Green.
Oui, Steph?
Deux petits clubs rapidement que j'aimerais aussi. Peut-être Philadelphie. Tu sais, t'as Alshon Jeffrey, mais en dehors de ça, bon, Nelson Agholor est tellement pas fiable.
C'est ça, c'est que Nelson, il y a des games de fou, il y a une game qui disparaît après.
Ouais, c'est ça
le problème
exactement.
Avec ce gars-là.
Puis, pourquoi pas les Raiders? Tu sais, les Raiders, je pense pas que leur saison est terminée. Là. Écoute, puis c'est pas nécessairement pour... cette année directement, mais c'est une équipe en dehors de Tyrell Williams qui n'a pas nécessairement beaucoup d'options, puis Tyrell Williams a été blessé aussi. C'est pas facile du côté de la profondeur chez les receveurs des Raiders, donc peut-être un club à surveiller de ce côté-là.
C'est là que tu vois que le départ d'Antonio Brown a fait vraiment
mal aux
Raiders.
C'est pas pour rien qu'on était allé le chercher. Donc, AJ Green sera un gars en plus qui te créerait pas les maux de tête et les maux d'estomac. Et
oui, parce que c'est un gars discipliné. Puis, il a tellement vécu des années de misère qu'on n'a jamais entendu parler. Il est capable d'aller vivre avec les Raiders.
Ouais, c'est ça. Mais, écoute... Je pense que Johnny a mis le doigt sur le bobo. Les Saints, ce serait extraordinaire comme.
Ça serait un gros fit. Envoie un courriel au boss au DG des Saints. Là. Je pense que t'as quelque chose d'intéressant. On va poursuivre.
Il y a le téléphone rouge. Hein. Il y a une ligne directe chez nous où est-ce que je peux le rejoindre.
Excellent. On poursuit dans nos rumeurs. À moins, les receveurs, y a-tu d'autres joueurs dont vous vouliez parler, les gars?
Écoute, on entend un peu à gauche, à droite. Peut-être que les Dolphins pourraient mettre sur le marché Devante Parker. Mais est-ce que ça intéresse encore? Tu sais, il y a un potentiel, mais ça fait 3 ans qu'on dit ça, il y a un potentiel. Pour ça, là, je le mentionne, mais disons que c'est pas la rumeur qui m'allume le plus.
Ouais, puis c'est pas le joueur qui va virer ton club d'abord non plus, je pense.
Ben, tu sais, comme je dis.
C'est un joueur de profondeur, peut-être, là, mais.
Il y a toujours le potentiel, la menace verticale et tout ça, là, mais jusqu'à maintenant, il n'a pas répondu aux attentes. Certains vont dire oui, mais c'est à cause qu'il est à Miami avec une situation de carrière pas possible. Peut-être, mais je pense que si un club, à tout le moins, décide d'aller miser sur un gars comme lui, faut vraiment pas payer trop cher.
On poursuit. Vas-y.
Je voulais juste parler du club, selon moi, qui a le plus grand besoin présentement, puis c'est les Eagles. Les Eagles, pour moi, ça reste quand même un bon club de football. À l'attaque, peut-être un receveur de qualité pour les améliorer, mais il faut absolument améliorer la tertiaire des Eagles. Ça, c'est le club, présentement, c'est de tous les clubs de la NFL. Je pense vraiment que c'est le plus grand besoin. Les Eagles sont maganés. Ils ont besoin de renforts immédiatement. Puis s'ils n'en ont pas, écoute, ça se peut que ce soit leur saison, les Eagles, qui vont payer, là, tout simplement. C'est un club, selon moi, que s'ils ont une bonne tertiaire, les résultats vont venir assez rapidement. Là. Cette saison-là, pour moi, n'est pas terminée pour les Eagles, malgré la défaite sans équivoque la semaine dernière.
L'explosion.
Contre les Cowboys, mais il reste que tu as encore beaucoup de matchs de division à jouer. Tu es encore dans la course pour gagner ta division.
T'es un match en arrière. Là.
Exact.
Tu parles de tertiaire. Il y en a des gars disponibles, honnêtement. Disponibles. On ne sait pas. On ne sait jamais s'ils sont disponibles. Là. C'est pas ici qu'on va le déterminer, mais je veux dire, il y a des candidats à tout le moins intéressants qui peuvent correspondre à leurs besoins. Là. Chris Harris à Denver, c'est certain qu'il bouge. Je peux pas croire que les Broncos vont s'attacher à lui avec leur saison de misère. Ça va être comme Emmanuel Sanders. On a dit non, Emmanuel Sanders.
Non. Attends, vas-y.
Regardez, il est parti. Quand tu as eu une offre qui te plaisait, tu l'as laissé aller. Est-ce que les Dolphins...
On en a parlé en avant l'émission, c'est un gros nom, ça, quand même.
Ils s'accrochent à Xavier Howard. C'est probablement leur meilleur joueur qui est toujours là. On lui a donné un contrat assez intéressant là, dans la saison morte. Mais, écoute, si un club arrivait avec une offre impossible à refuser, à la Laramie Tunsil, tu sais, Tunsil, il devait pas partir, c'était pas dans les plans de l'échanger.
Finalement, ils l'ont échangé.
Si un club arrive avec une offre pas possible à refuser, si t'es les Dolphins, puis tu te dis, écoute, en ce moment, là, c'est comme notre seule brique dans la fondation, là.
Bon, on va se débarrasser de cette brique-là aussi.
Tu peux y penser. Les Cardinals, là, c'est embêtant parce qu'ils viennent de gagner 3 matchs de suite. On les pensait complètement en dehors du coup. Écoute, je continue de penser que c'est pas cette année qu'ils vont faire les séries. Est-ce qu'ils pourraient décider d'échanger Patrick Peterson?
Ça
serait un gros coup pour les Eagles. Honnêtement, là, si tu veux faire une offre qui a bien du bon sens, je pense que les Cardinals pourrait céder à cette demande-là. Là. Tu sais, moi, c'est les 3 gars que je vois qui pourraient vraiment aider les Eagles. Je ne sais pas si Johnny t'en a ciblé d'autres, mais je pense qu'avec des gars comme ça, tu es en voiture.
Non, mais moi, je pense que, écoute, t'as
fait le tour de la situation.
C'est bien. Puis, écoute, j'avais même pas pensé à Patrick Peterson. C'est vrai que, écoute, parce que justement, il y a eu une petite renaissance des Cards, mais selon moi, la renaissance ne durera pas.
Ce sera pas pour les séries cette année.
Il faut aussi regarder qui les Cards ont battu. C'était pas nécessairement la plus grande opposition de l'histoire, mais faut pas leur enlever. Ils jouent bien, ils jouent du bon football. Ils jouent du football plus intéressant qu'on pensait en début de saison.
Mm-hmm.
Mais je pense aussi qu'à un moment donné, ils vont peut-être revenir à ce constat-là. Et si ils ont la chance d'avoir beaucoup de... pas d'argent, mais de
choix au repêchage. Voix
de choix ou de. Ben, écoute, ils vont regarder la banque. Là. C'est Patrick Peterson vont laisser aller, malheureusement.
D'autres positions, on avait parlé de la position d'allié rapproché.
On fait juste fabuler un peu dans notre.
On fait de la spéculation. Les animateurs de sport font ça 50% du temps, même plus.
Mais écoute, O.J. Howard à Tampa.
Ouf.
Il est très peu utilisé par Bruce Arians. Puis quand il est utilisé, il répond pas aux attentes d'Arians en ce moment. Il y a eu des clashs entre les deux. Arians l'a critiqué publiquement. Il a dit à plusieurs reprises qu'il s'attendait à plus de lui. Peut-être que la meilleure façon de tirer le maximum d'O.J. Howard, c'est pas dans ton équipe, c'est ailleurs. Tu sais, je sais pas, je dis ça comme ça. C'est un ailier rapproché qui a extrêmement de talent, là, ça.
Au niveau du temps, il n'y a pas de trouble.
Pas de doute
là-dessus. L'ancien choix de première ronde, si je ne me trompe pas, oui.
Oui, directement d'Alabama.
Il y aurait Cameron Brate aussi, mais Cameron Brate a signé un contrat qui le rend pas nécessairement facile à échanger. Je pense qu'O.J. Howard a plus de chances de partir si tu es un club, mettons...
Quelle équipe, moi, justement?
Moi, ce que Bruce Arians n'aime pas d'O.J. Howard, c'est que pour moi, c'est un ailier rapproché qui bloque pas très bien.
Non.
C'est un gars qui est très bon au niveau aérien, en tracé de passe, ainsi de suite. Puis, il est pas complet. Il est pas unidimensionnel.
Presque.
Receveur qui est captif de son gabarit d'ailier rapproché.
Exactement. C'est bien dit. Donc, je pense que c'est vraiment cet aspect-là qui est pas respecté par l'entraîneur-chef Arians. Et tu regardes les potentielles équipes, ben évidemment que les...
L'équipe de Dark Vader, là.
Mais est-ce que les... Ben, eux aussi, ils doivent avoir un inside aussi sur le fait que est-ce que Gronk va revenir au jeu ou pas? On le sait pas. Écoute, il y a juste Gronk qui le sait, mais je suis convaincu que les Pats vont être très rapidement au courant du futur projet. On sait qu'il est analyste à Fox, mais je pense qu'il se garde quand même l'option de peut-être revenir au jeu. Si c'est pas le cas, ben Howard est je pense que c'est une bonne option pour eux autres. Rajouterait un outil comme s'il en avait besoin dans l'arsenal offensif des Pats.
C'est pas tout ça, Howard, chez les Pats?
Ben, c'est le premier nom d'équipe que j'ai lancé parce que je pense que ça fait tout simplement trop de logique. La seule chose, c'est que Belichick aime bien que ses alliés rapprochés bloquent. Mais il trouverait une façon de l'utiliser.
Exact.
On va l'endurer une dizaine de games.
Et
là,
pour moi, peut-être une destination, il y en a qui vont me dire, ouais, ils en ont déjà un, mais Green Bay, pour moi, pourrait être peut-être une option intéressante pour O.J. Howard.
Ils ont beaucoup de receveurs blessés là, pour le moment. Là. Donc, si on parle d'un gars unidimensionnel sur la passe.
Puis là, tu vas me dire, oui, ils ont Jimmy Graham. Mais Jimmy Graham, pour moi, fait pas le boulot présentement. Là. Il est vraiment sur une pente descendante. Je pense que ses meilleures années sont vraiment derrière lui. Tu ajoutes O.J. Howard plus jeune. C'est clairement pour moi une amélioration là, du côté des Packers. Puis les Packers, écoute, une saison incroyable. Ils vont essayer de s'améliorer eux aussi là, d'ici la fin de la saison.
On avait à Seattle aussi un ailier rapproché très jeune qui fonctionnait très bien avant de se blesser, Will Dissly. Il y avait une belle chimie avec Russell Wilson. Est-ce qu'on pourrait dire du côté des Seahawks, écoute, move, on s'en va vers O.J. Howard. T'sais, on parle pour parler, mais je pense que ça peut être une destination qui fait du sens aussi.
Fort pertinent, messieurs. Y a-t-il d'autres secteurs d'échanges potentiels dont vous voulez discuter à ce stade-ci, messieurs?
Ben, je pense qu'il y a peut-être des joueurs qui pourraient bouger encore du côté des Falcons, là, que ce
Ouf,
soit.
Quelle saison misérable!
En défensive, il y a des joueurs qui pourraient potentiellement attirer l'intérêt des autres équipes.
Des joueurs de profondeur qui pourraient aller aider.
Sans payer cher, parce que garde un Vic Beasley, par exemple, qui a connu une énorme saison, puis que le reste du temps, il a déçu vraiment, il a fait d'ampelle Vic
Beasley. Tout à fait d'accord.
Lui pourrait intéresser des équipes parce qu'il y a des équipes qui vont voir sa saison de, je pense, c'était 14 ou 15 sacs là, il y a quelques années.
On peut refaire ça ici avec lui. Là.
Exactement. Donc, je serais pas surpris de le voir partir. Un autre secondaire assez jeune, Devondre Campbell. Est-ce qu'on pourrait se laisser tenter du côté des Falcons s'il y a une offre intéressante? Pourquoi pas le porteur de ballon Devontae Freeman?
J'y ai pensé hier. J'ai dit, ce gars-là, il a une valeur pour le moment, puis il y a des équipes qui ont besoin de porteurs de ballon, puis c'est un gars talentueux.
Ça. Par contre, je te dirais que cette année, il s'est pas mis au maximum de sa valeur. Il joue pas très bien devant.
Il est up and down. Je l'ai dans tous mes pools. S'il y a des semaines, ça va bien, mais il y a des semaines, c'est l'horreur.
Mais compte tenu de la saison des Falcons, qui s'en va complètement en dehors de la traque, faudrait surveiller du côté d'Atlanta pour des transactions potentielles.
Messieurs, on a fait un bon tour d'horizon. On va prendre une petite pause sonore et après ça, on s'en va dans la direction des prédictions pour les matchs du week-end.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas.
Ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
I got news for you, buddy. We're going to win the game. I guarantee it. I guarantee it. I guarantee it.
Enough said.
Alors, on est de retour. On parlait de ces pauvres Falcons qui s'en vont probablement manger une volée pour leur premier match, le premier match du week-end. Et je vais faire différent. Je m'en vais du côté du John ici cette semaine pour commencer. Seahawks qui visite les Falcons. J'ai annoncé ma frappe, victoire des Seahawks. Johnny, est-ce que tu vois un immense upset là-bas? Je pense pas.
Non, même si Julio Jones a déclaré cette semaine que c'était vraiment la faute des joueurs et non de Quinn, l'entraîneur-chef. Là,
la saison très, très, très décevante.
Mais j'ai des petites nouvelles pour Julio Jones. C'est toujours le problème des joueurs.
Parce que les coachs vont pas jouer. Là.
Non, puis dans la NFL, honnêtement, il y a certains coachs qui sont supérieurs à d'autres, mais tout le monde s'est coaché dans la NFL. Là.
Non, quand t'es rendu en haut, là, t'es pas un pied de céderie.
Sauf peut-être Jeff Fisher, que je me suis posé longtemps des questions s'il était capable. Mais j'ai les Seahawks qui vont venger leur échec de la semaine passée.
Seahawks, Steph?
Ouais, Seahawks aussi. Surtout que, écoute, au moment où on se parle, on n'est pas sûr pour la présence de Matt Ryan. Donc, s'il n'est pas là, il n'y a même pas de question qui se pose. Si Matt Ryan est là, les Falcons sont toujours candidats à causer une surprise de semaine en semaine, mais à un moment donné, il faut arrêter des attentes.
Eagles qui visitent les Bills. Moi, je vais avec une belle victoire de la Bills Mafia, John C.
Ouais, les Bills à domicile. Puis, honnêtement, présentement, la faiblesse des Eagles va vraiment aider les Bills. Les Bills, c'est pas une attaque aérienne qui fait vraiment peur.
Ouais.
Mais écoute, les Eagles sont tellement mauvais dans la tertiaire que ça va aider les Bills. Puis défensivement, écoute, les Bills sont c'est le top 3 de la NFL, là, défensivement. Ils sont extraordinaires. Je m'attends à une victoire des Bills.
Stéphane Cadaret?
Victoire Bills, je pense que ça va être serré.
Moi aussi.
Là où il faut faire attention du côté des Bills, il y a eu beaucoup de réveils au quatrième quart cette saison. T'sais, ils l'ont fait en deuxième demi, à tout le moins, là, contre Miami, contre Cincinnati, contre des clubs un peu plus faibles comme ça.
La semaine passée, contre Miami, j'ai dit comment ça, c'est compliqué ce game-là.
Ben, ils sont compliqués à tâche souvent. Josh Allen, qui a été souvent extrêmement ordinaire pendant trois quarts, puis brillant au quatrième quart. La seule précaution que j'ai là-dedans, c'est que Josh Allen fera peut-être pas ça au quatrième quart cette semaine. Faudrait commencer le match à l'heure, mais j'y vais quand même avec une victoire de Buffalo.
Et ça tombe bien parce que les Eagles sont vraiment mauvais pour partir les matchs également.
Ouais.
Donc, écoute, il y a quelque chose qui va tomber dans ce match-là. Là.
Chargers qui visitent les Bears. Les Chargers sont très décevants. Les Bears ont... je dirais peut-être pas le meilleur carrière de la Ligue. Johnny, qui gagne ce match-là? C'est comme deux équipes de sa vente, là, deux équipes tristes.
Ouais, mais j'ai l'impression que les Bears vont aller chercher le match. Je pense qu'ils ont été échaudés la semaine passée d'une performance ordinaire en défensive.
J'irais horrible.
Ouais, ben pour le talent qu'ils ont, ben moi je pense que c'est les Chargers qui vont payer cette semaine.
Steph?
Autant on parle des problèmes de Mitchell Trubisky, on oublie une chose, c'est que les Bears, la semaine passée, ont couru seulement 7 fois dans leur match. C'est le plus bas total de l'histoire pour un match. Dans l'histoire de la franchise des Bears, qui a 100 ans,
wow.
7 fois. Moi, je pense que cette semaine, on va courir, courir et courir encore. Puis l'autre point qui joue en faveur des Bears, c'est que la ligne offensive des Chargers est maganée. Ils ont encore perdu un garde la semaine passée. Ça va faire mal. Là, je pense que Khalil Mack et sa bande vont être un peu fâchés. J'y vais avec une victoire des Bears.
Bears aussi. Les Lions qui reçoivent les Giants. J'y vais une victoire des locaux, les Lions. John ici?
Oui, moi aussi. Même si j'ai pas aimé le commentaire de Darius Lee, je vois quand même avec les Lions là, qui devraient disposer des Giants. Les Giants, écoute, ils ont quand même du talent maintenant un peu à l'attaque, mais malheureusement pour eux, ça se passe sur les fronts défensifs et offensifs.
Ah, ils sont pas là, pense.
Ils sont à des
Il y a du boulot à faire.
Donc, ils devraient se faire manger face aux Lions.
Tu as un upset, là, mon Steph?
Non, on ne peut pas encore se chicaner.
Non,
on
va-tu
chicaner
là, bientôt, il faudrait.
J'y vais avec les Lions. Écoute, leur défensive me déçoit beaucoup, par contre. Très, très déçu de leur défensive. Détroit, là, ils se sont fait bouffer contre les Vikings la semaine passée. C'était même pas drôle. Il y a une sphère où ils sont bons, par contre, ils créent des revirements. Ils ont 11 revirements à leur actif. Puis justement, les Giants, pire équipe de la Ligue du côté des revirements, ils ont 18 revirements à l'attaque. Ça, ça pourrait être leur coup de mort.
Raiders qui visitent les Texans. Et moi, j'y vais avec la victoire des visiteurs. Raiders, John C.
Non, j'aimerais ça te suivre. Puis je,
ah ouais, donc.
Je sais que t'es un gars qui évalue bien les Texans aussi, je trouve, depuis le début de la saison.
Un des clubs là, qui est dur à suivre, je trouve, là, mais moi, j'ai les 16 cette année.
Ouais, mais pas cette semaine.
Okay.
Pas cette semaine. Je vois avec la victoire des Texans. Les Raiders sont trop mauvais défensivement pour, je pense, rivaliser avec Deshaun Watson.
Je pense que les deux équipes sont mauvaises défensivement.
Les Texans, je te trouve difficile.
La tertiaire est ordinaire,
mais le front défensif est quand même solide.
Je retire défensif, je mets tertiaire à la place. Merci.
Les Texans devraient l'emporter, puis Deshaun Watson va faire la différence.
Tu me suis-tu? Ah ouais, non, Steph.
Je te suis pas pantoute. Deshaun Watson qui va brûler les Raiders pour la simple et bonne raison que les Raiders sont pas capables d'appliquer la pression. Puis quand Deshaun Watson est confortable,
tout va bien.
Tout va. Quand l'appétit va, tout va. Et j'y vais avec les Texans, même par un gros 10
points. OK.
Pas une volée, là, mais un 10 points, là, soyez confortable.
Le Jets qui visite les Jaguars. Jaguars à la maison. Je vais avec les Jags.
Je vois avec les Jets.
Il y aura moins de fantômes sur ce terrain-là, je pense.
Je suis convaincu qu'il va y avoir moins de fantômes. Mais honnêtement, la vérité, c'est que depuis les Jags ont plus la tertiaire qu'il y avait. Ils ont encore une bonne défensive. Je m'attends à un match serré face aux Jets, mais les Jets ils ont été échaudés l'an dernier face aux Jags. Les Jags les avaient humiliés. Puis vers la fin, il avait rajouté des touchés qui n'étaient pas obligatoires.
C'est ça, il avait humilié l'adversaire.
Exactement. Puis les Jets, s'en rappellent, ça a sorti cette semaine. Puis je pense que les Jets vont vouloir aussi faire oublier très rapidement leur très, très mauvaise performance face aux Pats. Pour tout ça, je pense que les Jets vont sortir un lapin de leur chapeau.
T'as-tu une petite surprise pour moi là-dessus, Steph?
J'y vais aussi avec les Jets.
Wow!
Ouais, écoute.
OK, les boys.
Non, mais je pense qu'on a vu le pire des Jets face aux Patriots.
Il n'y a aucun doute.
C'est l'image qu'on retient. C'est l'image qu'on retient, mais c'est un meilleur club que ça.
Non, mais je suis d'accord aussi.
Écoute, deux semaines avant, ils ont battu les Cowboys de façon très convaincante. Il ne faut pas oublier ça. On est souvent sur l'impression du dernier moment.
Mais il y a des matchs avant aussi qui ont été joués. Là.
Ben, Sam Darnold, là, écoute, il a été atroce contre les Pats, mais il avait très, très bien joué contre les Cowboys. L'autre chose qui me fait un peu prendre pour les Jets, ils se défendent extrêmement bien contre la course. Ils donnent 3,2 verges par portée à l'adversaire. C'est quoi le pain et le beurre des Jaguars?
Le running game.
On parle de Minshew. Là, c'est le fun. Il a une super moustache. Il a des habits extraordinaires. Mais c'est Leonard Fournette qui fait marcher cette attaque-là. Faut pas l'oublier. Donc, victoire Jets, ça va être une certaine surprise, je pense. Mais écoute, les Jets ne seraient pas à leur première déception là, s'ils nous font dans les mains.
Bon, ben, ils vont vous faire dans les mains, les messieurs. Ce sera vos stats de prédiction qui vont en souffrir. Bengals qui visite les Rams. Le match est à Londres. Rams, tout le monde. Y a-tu quelqu'un qui a un upset dans sa manche?
Non. Je pense même que ça va être un massacre.
Ouais, c'est
à Londres.
Ce que je pense, toi aussi, Steph.
Ouais, ben, les Rams sont bénis, hein. La semaine passée, tout allait mal. 3 défaites de suite. Ils ont eu la grâce d'avoir dans leur calendrier les Falcons. Puis là, ils ont les Bengals. Tu sais, je commence à me dire que les dieux du football sont de leur côté.
Les Rams vont faire passer Jack l'Éventreur pour de la petite bière, en fait.
Oh, rien de moins.
Ça va faire mal.
Les Cards qui visitent les Saints. Au début de l'année, on aurait dit que ça va être un match du calendrier qu'on va avoir un œil dessus. On aurait tout dit pas sûr, mais avec les fiches des deux équipes, je dis oui et j'y vais avec une victoire des Saints.
Et t'avais ta face d'upset. Là.
Ben justement, j'ai voulu vous énerver un peu. Là.
Je te regardais aller, j'ai comme arrêté de respirer. Non, mais je pense sérieusement que ça pourrait être un match plus serré qu'on pense.
Je crois que ça va être un match serré.
Les Cards jouent du bon football, mais j'y vais avec les Saints. Là, celui-là,
à la maison.
C'est ce qui va faire la différence. On dit que Kyler Murray a été beaucoup mieux protégé dans les derniers matchs. C'est ce qui a fait qu'il a pu éclore un peu, ouais, se servir de ses jambes.
J'ai l'impression que dans ce match-là, ça va être plus dur.
Ça va être dur parce que regarde le front défensif des Saints.
Il y a une gang de pas fins sur cette ligue-là. Ligne-là.
Tu sais, je pense à Cameron Jordan, entre autres. Puis écoute, Kyler Murray, la seule chance des Cards, c'est qu'il se serve presque autant de ses jambes que de son bras, un peu à la Lamar Jackson, pour déstabiliser les Saints. Sinon, ça pourrait virer mal là, assez rapidement. Puis la grande question par rapport à ce match-là, est-ce qu'on croit Drew Brees ou on croit Sean Payton? Drew Brees a dit, moi, le plan, c'est que je joue en fin de semaine. Drew Brees, Sean Payton, lui, a été beaucoup moins affirmatif. On va évaluer les choses. C'est au jour le jour. On ne sait pas trop. J'ai hâte de voir son assist au retour du grand Brees.
Johnny.
Écoute, je pourrais me tromper, mais moi, je vais faire l'évaluation pour Brees. Après ce match-là, les Saints ont un bail.
C'est faut que t'attendes.
Donc, faut que t'attendes.
Surtout que t'as une fiche inespérée.
Exactement.
À ce stade-ci, là.
Exactement. Avec, tu y donnes tout simplement une semaine de plus pour
Et
revenir.
Est-ce qu'il gagne contre les Cards avec Teddy?
Oui, Teddy, j'en reviens pas. Teddy joue du très, très bon football. Mais surtout dernièrement, parce qu'il y a, écoute, les deux, trois premiers matchs, c'est la défensive qui a vraiment remporté les rencontres. Mais là, présentement, je joue du bon football. Puis le seul point négatif que je vois dans ce match-là, c'est Camara qui joue encore un peu blessé. Mais
il n'a pas joué le week-end dernier.
Oui, mais il devrait revenir, on parle en fin de semaine. Donc, je pense quand même que les Saints vont en faire assez pour battre les Cards.
Réalisez-vous, messieurs, que l'année prochaine, il risque d'avoir trois gros carrières agents libres, Jameis Winston, Marcus Mariota, mais c'est de Teddy dont on va parler. C'est peut-être lui qui va avoir le plus gros contrat des trois. C'est ça qui est surprenant. Là.
Fort possible. Buccaneers qui visitent les Titans, mon équipe schizophrène préférée, les Titans, qui vont trouver le moyen de l'échapper. Victoire des Bucs. Johnny.
C'est fort possible, mais écoute.
Mais
la semaine passée, j'ai choisi les Titans à domicile. Et je le fais encore de nouveau. Je choisis les Titans. Je pense qu'ils, défensivement, quand ils sont à la maison, sont vraiment, vraiment pas faciles à jouer. Je m'attends tout simplement à une petite victoire du probablement l'uniforme le plus laid de la NFL.
Stéphane.
Les Titans qui ont généré pour la première fois de la saison 400 verges d'attaque avec Ryan Tannehill.
Ben,
imaginez
le sauveur.
Ben, c'est ça. Tout est tellement positif dans le match d'avant que je vous le dis, ils vont perdre.
Écoute, j'y vais avec les Titans, mais cela étant dit, je vais me faire mal un peu, je vais m'auto-mutiler. Je suis 1-7 cette saison avec les Titans. Fait que prenez ma prédiction puis faites ce que vous voulez avec. Je vous respecte.
On continue un des bons matchs du week-end. Panthers qui visite les 49ers. 49ers toujours invaincus. Je pense. Je vais vous laisser parler, les gars. Là, pas encore décidé. Johnny.
J'y vais avec les Niners face aux Panthers. Je pense que dans le cas du carrière des Panthers, ben, ça a déjà été annoncé que c'est pas Cam Newton qui va être en poste. Là. Ça va être la recrue.
Allen.
Kyle Allen va avoir son premier mauvais match.
Et voilà.
Et j'ai l'impression que ça va tomber contre les Niners qui ont écoute, défensivement. Une excellente défensive, le front défensif en feu. Je pense vraiment que ça va être difficile pour les Panthers. Victoire des Niners là, à domicile. Puis ça pourrait vraiment donner un bon vieux quarterback controversy là, en Caroline.
49ers, Johnny m'a convaincu. Steph!
49ers aussi, puis c'était exactement mon argument. Je pense que c'est la semaine où Kyle Allen retombe sur terre à sa juste place. Écoute, il a joué du bon football. Non, mais
de l'excellent football.
Je respecte vraiment au plus haut point ce qu'il a accompli cette saison, mais je pense qu'on l'a surélevé sur un piédestal qui n'a juste pas d'allure pour le peu, le petit échantillon là, finalement qu'il nous a démontré. Je pense que Kyle Allen, à long terme, ça va être un bon réserviste de qualité, mais que ça va être son plafond. Écoute, s'il fait plus...
Et c'est là qu'il frappe un mur. Là.
S'il fait plus, pis si cette semaine, je parle pas de battre les Niners, mais s'il joue de façon très respectable contre les Niners, je vais déjà être impressionné puis lui lever mon chapeau. Je vais être le premier à le faire, mais je pense que ça va être très difficile.
Très difficile, puis je pense que ça va être difficile pour CMC aussi de gagner des verges au sol. Il va peut-être s'illustrer un peu plus par la passe en fin de semaine. Mais au sol, face au front défensif des Niners, McCaffrey, je pense qu'il va avoir un petit peu de difficulté.
On respecte trop peu les Niners. On parle de défensive des Pats sans arrêt. On fait des comparatifs avec les meilleures défensives de l'histoire. Puis on oublie les Niners qui sont une défensive contre la passe tout simplement phénoménale jusqu'à maintenant.
Broncos qui visitent les Colts. On a-tu un trio de victoires Colts ici?
Ouais, je pense que oui. Colts, je vais Johnny, pas me risquer. Là.
Oh, Johnny, dans ton visage, j'ai un questionnement. Je vais te laisser. Évalue-moi ça. Là.
Non, il n'y a pas de questionnement.
Il n'y a plus de questionnement. OK, c'est beau.
Les Colts all the way. Puis, écoute, il faut commencer à parler de Jacoby Brissett.
Qui a
une saison absolument incroyable. Qui va vraiment au-delà des attentes.
Ici, oh, écoute, oui.
On l'a tous respecté là, à la table ici. On disait que les Colts allaient quand même avoir une
chance. Peut-être être en mesure saison, de compétitionner.
Peut-être compétitionner, mais là, il fait beaucoup plus que ça. Il est en feu, mais ça part aussi de la ligne à l'attaque qui est vraiment, vraiment dominante. Puis honnêtement, un de mes plaisirs cette année dans la NFL, c'est regarder Quentin Nelson faire une crêpe à au moins chaque rencontre. Il y a au moins un gars qui paye la taxe à chaque match. Je parle évidemment du garde offensif là, des Colts qui est absolument extraordinaire.
Johnny, on va parler de tes bruns et de M. Landry qui a garanti carrément une victoire contre les Pats. Est-ce que sa garantie va tenir la route?
Écoute, on va y revenir un petit peu plus tard de M. Landry, mais je vais parler des Pats. Écoute, une défensive qui est vraiment en feu. Moi, je pense que les Pats sont dus, par contre, pour avoir pas nécessairement une contre-performance, mais une performance un petit peu plus, je dirais, là...
Modérée,
coussi-coussa. Et je vois quand même les Pats l'emporter, mais quand même dans un match un peu plus serré que...
Plus serré que ce qu'on anticipe.
La clé pour les Browns, c'est très, très simple. Est-ce que Baker Mayfield va régler son problème de colorblind, tu sais, est-ce qu'il va régler son problème? Lui, je pense qu'il
voit pas les gens, il voit pas les couleurs.
Il trompe les couleurs parce qu'il lance beaucoup trop d'interceptions cette année. S'il évite les interceptions, ça va donner une chance aux Browns.
Pats pour Mathieu Boivin. Steph.
Pats aussi, il y a seulement deux façons dont les Browns peuvent se sauver avec une victoire. C'est la pression sur Tom Brady, puis ont les armes quand même pour le faire. Ça, c'est un match-up intéressant, je pense, la ligne défensive des Browns contre la ligne offensive des Pats, qui est bien, mais qui n'est pas non plus une ligne d'élite. Puis Nick Chubb. Écoute, les Pats, qui ont une défensive formidable, je pense qu'il n'y aura pas de débat autour de la table, mais ils donnent... Écoute, s'il y a une parcelle de lacunes à attaquer... là. Puis je le mentionne comme ça parce que c'est pas une lacune, mais disons-le, une parcelle.
C'est où on peut essayer d'exploiter quelque chose.
C'est que les Pats donnent au-dessus de 4 verges par portée, 4,2 verges plus précisément. Donc, si tu y vas avec Nick Chubb, que ça fonctionne, que tu arrives à contrôler le cadran, peut-être que. Mais quand même, il y a beaucoup de si dans ce que je viens de dire, donc je reste avec les Pats.
Donc, ça n'arrivera pas.
Et honnêtement, les Pats aussi savent qu'ils doivent protéger Brady et les Browns. Écoute, j'avais une statistique spectaculaire là, face aux Browns. Depuis la semaine 17 de l'an dernier, c'est l'équipe qui a donné le plus de verges à son adversaire, 132 verges par match. Donc, je pense que le mot d'ordre va être simple du côté des Pats. On va courir dans la face des Browns en fin de semaine.
On continue nos prédictions, les gars. Le match, je crois, pas du week-end, mais ouais, pas loin. Là. Packers, le match du dimanche soir qui visite les Chiefs. Je vais avec une victoire de l'équipe visiteuse, John Essay.
Tu y vas avec les Packers?
Oui, monsieur.
Je vais avec les Chiefs dans un match où ce que je crois que les Chiefs vont trouver tout simplement une façon de gagner.
Même avec Matt Moore?
Ouais, c'est ma surprise de la fin de semaine. Ça reste que gagner à Kansas City, c'est pas
difficile.
Facile. Il y a du bruit, ils ont une ambiance le fun. Tout indique que oui, les Packers devraient l'emporter. Mais écoute, des fois, dans la NFL, des fois, la logique ne...
Non, tout à fait. Parce que c'est rien de la logique, on suivrait les cotes, ça serait fini.
Exactement. Je joue avec les Chiefs.
Une surprise, Steph, ici.
Packers, de mon côté, écoute, j'ai hésité quand même parce qu'il y a des bobos chez les receveurs des Packers et tout ça, mais Aaron Rodgers, la semaine passée, nous a montré qu'il pouvait faire fonctionner
dans un autre univers.
C'est ce qui me convainc un peu. Puis je pense que les Packers ont aussi le stuff avec Aaron Jones, avec Jamal Williams pour courir dans la gorge des Chiefs. C'est là qu'il faut que tu les attaques. Tu as vu ce que les Texans ont fait, ce que les Colts ont fait pour les battre.
On
contrôler
court,
l'horloge.
On court.
Je pense que les Packers ont ce qu'il faut pour le faire de ce côté-là.
D'un autre côté, moi, ce que j'ai aimé de la semaine dernière des Chiefs, c'est qu'ils ont couru dans la face des Broncos la semaine passée. Puis ça, ils n'avaient pas fait ça, on en parlait. C'était l'attaque aérienne des Chiefs qui faisait le gros du boulot.
Ouais.
Là, évidemment, avec Patrick Mahomes qui est sur le carreau, ben, ça force les Chiefs et Andy Reid un petit peu de courir la balle. Puis les Packers, eux aussi, s'il y a quelque chose à attaquer, ben c'est le front défensif. Je pense que c'est possible de courir contre les Packers. Donc, ça explique ma décision.
Ça va être très bon, ce match-là.
Et on finit avec un drôle de match du lundi soir. Mes Steelers sont là et c'est correct. Là, je vais regarder le match contre les horribles Dauphins. Est-ce que les Dauphins pourraient trouver une façon de battre les Steelers? Les Steelers qui peuvent encore espérer du moins se battre pour une place en série, ce qui n'est pas le cas du côté des Dolphins. Stéphane.
Non.
T'as-tu un upset dans ta manche ici?
Non, j'y vais avec les Steelers. Même si je crois maintenant que les Dolphins n'est peut-être pas la pire équipe de la NFL.
Et quelle est cette pire équipe?
Ils jouent mieux.
3-4 semaines, ils
exact.
Jouent
mieux. Et qui est cette pire équipe?
Moi, présentement, j'ai les Bengals comme la pire équipe de la NFL. Puis dans quelques semaines, ils vont s'affronter. Donc, après le Garbage Ball Redskins-Dolphins, ben on va avoir un nouveau Garbage
Ball. C'est qu'on va avoir une Coupe des ordures phase 2. tout tu me l'as dit, bien sûr, victoire des Steelers, excellent. Donc, on a fait le tour, on va prendre une petite pause sonore et on s'en va directement à la chronique au bar. I got a hangover, whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover, whoa. De retour pour la chronique au bar. Et mesdames et messieurs, là, j'attaque ça et je me donne le droit de commencer. Il y a un coach dans la NFL qui a osé comparer Aaron Rodgers à Trubisky, le carrière des Bears. Et j'envoie cet individu directement au bar et j'y vais avec un régime sec. T'es dans un bar et tu peux pas boire. Tu dis trop niaiserie. Donc, Anthony Lynn, là, qui dans une dont les deux équipes Bears et Chargers s'affrontent cette semaine, il y a des questions autour du corps à visiteur. Trubisky qui a été, on va être poli, très ordinaire le week-end dernier. Et là, on s'en va faire une comparaison avec Aaron Rodgers. Non. Fait que au bar, Monsieur Lynn, ça vient de finir. Là, comparer le style de jeu, le bras. Non. C'est au bar, Monsieur Lynn, terminé. Steph.
Écoute, ça me fait de la peine de faire ça, moi.
Toi, t'as tout le temps de la peine au début. J'ai de la peine.
Parce que j'aime pas envoyer un adolescent.
Un homme proche de ses émotions.
Ah non, exactement.
Quand t'envoies un ado au bord, tu sais pas comment ça va finir. C'est ça qui me fait peur.
Ben, tu le sais comment ça va finir. Tu vas avoir des problèmes à gérer.
Ouais, c'est ça. Puis j'envoie à contre-cœur Sam Darnold au bord. J'ai détesté son match contre les Patriots. J'ai détesté le fait qu'il voit des fantômes, qu'il l'a même dit. La seule chose que j'ai appréciée de Sam Darnold, c'est qu'il y a eu toute une controverse autour du fait qu'il portait le micro pour ce
match-là. Le fameux micro du match.
Puis sur le banc, on l'entend dire « I'm seeing ghosts, je vois des fantômes ». Ça le fait très mal paraître. Son entraîneur-chef, Adam Gase, qui a déploré ça, il a critiqué. Le'Veon Bell qui a critiqué aussi la NFL et ESPN. Les deux trouvent qu'ils ont un peu cochonné Sam Darnold. Sam Darnold, lui, qui a pris ça un peu comme un grand garçon, il a dit non, moi, j'ai pas de problème, je vais leur porter le micro. Je suis enregistré, je sais que je suis enregistré. Si on décide de passer ça en onde, moi, je vis très bien avec ça. Puis il a dit, si je me préoccupe de ça, c'est que je me préoccupe pas des bonnes choses. Chapeau, Sam Darnold. Donc, je l'envoie au bar, mais moi, au contraire de toi, je le laisse boire, je le laisse avoir du fun un peu. On oublie ça.
Sous supervision.
Puis, mon grand, je reste derrière toi. Va-t'en battre les Jaguars puis fais-nous bien paraître en fin de semaine.
John Essie, qui mérite d'aller au bar?
Le receveur étoile des Browns de Cleveland. Et écoute, on aurait tous pensé que c'est le genre de déclaration qui viendrait un jour d'OBG. Et non, son comparse, Jarvis Landry, qui est allé avec la déclaration cette semaine que... il garantissait la victoire face aux Pats. Et là, un peu plus tard, il a dit non, je me suis mal exprimé. C'est écoute, on va
un autre dans le club des mal cités
avec un tape d'en face.
Mais t'sais. Écoute, la première déclaration était très claire, c'est I guarantee we're gonna win face aux Pats. Peu importe si tu l'as dit ou tu l'as, il peut pas avoir la moindre chance que tu garantisses quoi que ce soit face aux Pats. Tu sais, tu touches pas.
Non.
À l'ours qui est... Même, il dort pas non plus. Les Pats sont 7 victoires, aucune défaite. La défensive est en feu, donne à peu près aucun point. 48 points depuis le début de l'année. Ton corps arrière, le pâtissier, lance plus d'interceptions que n'importe qui le dans la NFL. Puis là, tu dis que tu vas battre les Pats à Nouvelle-Angleterre, à Boston en plus.
Au bar, là.
Ça mérite vraiment, vraiment d'aller au bar pour M. Landry. J'espère qu'il va avoir raison, mais peu importe s'il a raison ou pas, il mérite d'aller au bar parce que, honnêtement, tu donnes pas de motivation.
Pourquoi donner des motivations à une équipe qui
n'en
a vraiment pas de besoin?
Non, vraiment, vraiment pas de besoin.
Faut expliquer aux gens que le bar, là, dans certaines occasions, c'est un petit remontant. Hein?
Tout à fait.
On a envoyé Kirk Cousins au bar. Il s'est replacé. Il s'est dit, regardez-le depuis un mois. C'est fantastique
depuis
ce qu'on fait.
Depuis qu'on l'a envoyé au bar. Depuis qu'on a agi avec Kirk, il produit.
Ça fait réfléchir le bar. Donc, voyez-nous pas comme des méchants quand on fait ça. Là, on les aime, les gars. C'est juste qu'à un moment donné, on les amène à réfléchir sur leur carrière, sur ce qu'ils font de bien et de moins bien.
Et des fois, ils ressortent de là grandis.
C'est à ça que ça sert, le bar.
Good. Alors, on va mettre fin à la portion football standard là, du balado de la zone payante et on vous invite à venir nous rejoindre dans la section Fantasy.